Si je vous dis que le Seigneur est bon, est-ce que vous allez être tous d'accord avec ça? Oui, sa bonté durera toujours. Il y a un chant comme ça, hein, il me semble. Et c'est vrai, c'est une vérité. Je voudrais simplement signaler que le pasteur de cette assemblée n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est sur Versoix en train de prêcher. Il annonce la parole aussi, pas bien loin, hein, Versoix. Et donc, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est bien sûr la parole de Dieu, cette parole qui vivifie, cette parole qui permet que l'être humain, quel qu'il soit, puisse avoir une vie remplie de la bonté, de l'amour de Dieu. Et pour ça, j'ai pris une lettre dans l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse, bien souvent, quand le monde présente l'Apocalypse, c'est l'Apocalypse, elle présente comme quelque chose de destruction. La Bible, elle, le vrai sens, c'est révélation. Et on a besoin d'avoir une révélation. Et Dieu se révèle par sa parole. Et ce que Dieu veut, c'est que cette parole ne revienne pas à lui sans avoir fait un effet. C'est le désir de Dieu. Toute créature qui est ici ce matin, là, assis, tranquillement, qui a été au bénéfice déjà de la louange, qui a vu la Sainte Seine, mais il peut être au bénéfice maintenant de ce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il est dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait un effet. Alors moi, c'est ce que j'espère, que vous qui êtes rentrés ici, vous êtes rentrés peut-être avec tous vos soucis, avec toutes vos difficultés par les circonstances de la vie, mais vous ressortiez de ce lieu avec quelque chose que vous aurez saisi. Il n'y a peut-être qu'une seule parole pour vous. Je dis bien qu'une seule, mais celle-là, si vous la saisissez, croyez-moi, Dieu se révélera. Alors, je voudrais peut-être lire quand même cette fameuse lettre. Dans l'Apocalypse, il apparaît 7 lettres qui sont adressées chacune à une église. Et la lettre que je voudrais vous parler ce matin, c'est une église qui s'appelle Philadelphie. Alors, je vais peut-être vous la lire, et après on rentrera dans le sujet. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Vous savez que c'est rassurant, ça ? Celui qui ouvre, et personne ne pourra fermer cette porte. Celui qui fait et celui qui ferme, et par contre, personne n'ouvrira. Ça aussi, c'est une vérité. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne la couronne, ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Les commentateurs de la Bible ont nommé Philadelphie l'église de la fidélité. Mais le vrai sens de Philadelphie, c'est l'amour fraternel. Bien sûr que les deux sont importants pour former une église qui tienne la route face au monde. Fidélité et amour. Et on sait qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais dans le temps passé. L'Église a besoin de s'enraciner dans les valeurs spirituelles que le Seigneur a recommandées pour une marche harmonieuse. Philadelphie. Il n'y a que là qu'on parle de Philadelphie. C'était une petite ville sur la route de l'Orient. Il est dit qu'elle fut détruite par un tremblement de terre et c'est l'empereur Tibère qui l'a reconstruite. On ne sait pas grand-chose du début de cette église, mais l'influence chrétienne s'est faite sentir jusqu'au XIVe siècle. C'est important de rentrer un peu dans l'historique, un peu de... Jusqu'au XIVe siècle, l'influence chrétienne s'est fait sentir à travers cette église. Et c'est par cette lettre que nous révèle que Philadelphie est attachée au Seigneur Jésus. Malgré un adversaire qui la persécute, sans arrêt, et qui est nommée la synagogue de Satan. Vous rendez compte, dans l'église, la synagogue de Satan. Parfois on dit... Quand on est dans l'église, on est en sécurité. Je me rappelle qu'un commentateur disait, il y a longtemps de ça que j'avais entendu ça, il disait, vous savez, le diable, il rentre avec, en marchant doucement pour ne pas réveiller ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est vrai parfois. Ce n'est pas toujours vrai, mais parfois ça peut être vrai. Et je crois que justement, l'église a besoin d'être éveillé. Ce passage de la synagogue de Satan n'apparaît pas que dans cette église-là de Philadelphie, dans l'église, une autre des lettres, dans l'église de Smyrne aussi. Comme quoi, le diable cherche toujours un moyen pour attaquer les chrétiens. Il cherche toujours à faire tomber les chrétiens. C'est ça. Vous savez, quand on appartient à Christ, on est toujours attaqué. Ça me dit, oui, mais alors si on est toujours attaqué, je préfère ne pas être croyant. Non, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est intéressant dans le sens que l'agression, il ne faut pas la rechercher, hein, mais quand vous êtes agressé par toutes sortes d'événements, si vous êtes attentif à la voix de Dieu, il vous rendra toujours plus que vainqueur. En tout cas, pour cette église de Philadelphie, cette pression de l'ennemi qui est là, qui est présente, la fortifie dans sa foi. Au contraire, ces manifestations deviennent le secret de sa puissance. Ces chrétiens ont perçu que le Seigneur permettait ces épreuves pour que la parole ne reste pas muette derrière les murs, mais qu'elle devait sortir pour évangéliser. Une église, ce n'est pas des murs. Une église, c'est un corps. Et ce corps, c'est vous. Et si ce corps reste d'une manière stoïque, là, en place, et ne bouge pas, c'est comme si c'était un corps mort. Et le corps de Christ doit être un mouvement permanent. Un peu comme la mer, vous savez, qui ramène toujours la houle. Le corps de Christ, c'est ça. C'est quelque chose qui va toujours de l'avant. Il n'y a jamais d'arrêt. Le verset 8 de cette lettre à Philadelphie dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » C'est Paul qui va dire aux Colossiens « Priez pour nous en même temps, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le ministère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Et quand on parcourt les sept lettres de l'Apocalypse, on s'aperçoit rapidement que Philadelphie est la seule où le Seigneur ne fait pas de reproche. C'est la seule où il n'y a pas de reproche. Quel est le secret de cette Église face au monde et aux séductions religieuses de son époque? Je vous propose de voir, moi j'appelle ça les secrets, mais on pourrait dire les principes. Peu importe le terme que vous allez utiliser, de Philadelphie. Le premier secret que moi j'ai repris, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Ça, il faut que ça soit quelque chose de ancré en nous. Il dira, dans cette lettre, le Seigneur, « Je connais tes œuvres ». Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quel contraste avec les autres églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Vous connaissez peut-être pas, mais je crois que c'est la septième église, c'est Laodicée. Et dans Laodicée, il est dit une chose, le Seigneur parle, et il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Quel paradoxe ici. À Philadelphie, le Seigneur ouvre une porte. Ici, dans Laodicée, le Seigneur se tient devant la porte et il ne rentre pas, il frappe. Ce qui veut dire que, déjà, il y a un gros problème. N'oublions pas que cette lettre est adressée à une église, l'église de Laodicée, donc c'est les chrétiens. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que le Seigneur, au lieu d'être dans la vie des croyants, il est déjà à l'extérieur. Il a été sorti de l'église. C'est la tragédie. Et c'est souvent comme ça, quand des croyants, qui se disent croyants, et ça devient un titre, mais tout ce qui en fait la valeur est exclu. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur se tient devant la porte. Et souvent, ce passage-là, de l'Odyssée, on le prend pour faire dans des messages d'évangélisation, vous savez. C'est erroné. Ça s'adresse à des chrétiens. Et aujourd'hui encore, nous devons veiller parce que si nous ne prenons pas garde, nous sommes en danger. Entre le Seigneur qui nous précède et nous ouvre la porte et qui nous permet d'annoncer le message libérateur et ceux qui sont sous la prise de Satan et la porte de notre cœur qui reste fermée aux sollicitations du Seigneur. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'un ou l'autre. Non. Cette église de Philadelphie n'avait rien. Elle était petite à ses yeux. Elle se voyait petite. Et elle était sûrement petite même. Mais elle pouvait s'appuyer. Elle ne pouvait pas s'appuyer sur elle-même. En plus, non seulement elle était petite à ses yeux, mais le Seigneur honore toujours ceux qui sont petits à leurs yeux et ceux qui se sentent faibles. C'est le Seigneur qui va dire ça dans l'évangile de Luc. Ne crains rien, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Paul aussi va exprimer quelque chose de fort. Il dit bien, je me glorifierai dans bien plus volontiers mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et il termine en disant, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible que je suis fort. Attention, avertissement. Pour celui qui se croit fort. C'est Paul qui va le dire aussi. Tu te crois fort, fais attention, tu risques de tomber. Cette église de Philadelphie préfigure l'église fidèle de tous les temps à venir. C'est un modèle. Et nous devons, nous, église de Prévesin, puiser, non seulement dans la parole, mais dans le modèle qui nous est donné là à travers cette église. Alors, le second secret, on vient de voir le premier, hein, l'obéissance à la parole, et on aurait pu développer beaucoup plus, c'est vrai. Le second secret, c'est la fidélité à la personne de Christ. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, il est dit à cette église. Ce n'est pas la fidélité à la tradition, vous savez. Non, l'église de Philadelphie vivait pleinement en restant ancrée et en gardant la parole de Jésus. Et cela semble naturel, que le reniement n'a rien à faire dans le cœur du croyant. Un jour, Jésus a pu dire à ses disciples, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, j'aime ce mot, persévérance, persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. » C'est là qu'on voit les véritables croyants. lorsque je persévère, malgré tout, hein, parce que le croyant n'est pas à l'abri d'avoir des chocs terribles. Il peut même, des fois, avoir des chocs qui sont tellement terribles qu'ils peuvent le terrasser. Mais s'il résiste, s'il tient, s'il est ancré dans la parole, s'il est ancré dans cette fidélité, en sachant que Dieu, malgré tout, lui est fidèle, alors il résistera à la tempête. Et on sait que les tempêtes, quand elles sont là, pour ceux qui les vivent, elles sont des fois très difficiles à vivre. Cette église priait aussi en son nom. Et c'est le Seigneur qui leur dit, car là, mais là c'est dans Matthieu, alors peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de connaître la parole de Dieu, ça va, ils vont se dire, qu'est-ce qu'il nous sort là, il va où, de quoi il nous parle. Oui, je sais bien. Il y a une chose importante que dans Matthieu 18, 20, pour ceux qui connaissent la parole, ils savent de quoi je vais parler, où il est dit que là, ou deux, ou trois, se tiennent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, on est plus de deux ou trois. Moi, j'aime bien dire ça. Bon, on va me dire, Georges, je t'exagère toujours, toi. Ouais. Ben, je suis du midi. Hein. Bon. Moi, pour moi, les rangs là, tous les petits vides qu'il y a dedans, ne sont pas vides. Est-ce que vous avez la foi pour croire qu'ils ne sont pas vides? Moi, je le crois. Moi, je crois qu'il y a des anges qui sont assis là et qui écoutent, comme vous. Est-ce que vous le croyez, ça? Pardon. C'est pas très... Hein, c'est une foi qui est un peu lente à déborder. Et pourtant, moi, je crois que quand Dieu, sa parole est ouverte, lui déjà se tient là, et il veut qu'il y ait une manifestation de sa toute-puissance. Voulez-vous de sa toute-puissance? Vous la voulez? Vous ne la voulez pas? La question est là. Si tu veux, la puissance de Dieu peut se manifester aujourd'hui. Il suffit de croire. Croire que Dieu est souverain. Dieu dirige tout. Même si ça paraît aux yeux du monde que chacun dirige sa vie comme il veut. Non, non, non. Pas vrai. Tu crois, mais tu te trompes. Et je crois que cette église de Philadelphie, malgré sa petitesse, malgré sa faiblesse, elle expérimentait jour après jour la force du tout-puissant nom de Jésus. Et moi, j'aime le nom de Jésus. Et d'ailleurs, même souvent quand je prie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que des Jésus, il y en a beaucoup. Mais Jésus de Nazareth, il n'y en a qu'un. Jésus de Nazareth. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, je vous renvoie au livre des Actes, chapitre 2, 3, à peu près, quand Pierre va dire à cet homme, qui est boiteux, qui est là, assis, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il est dit que cet homme-là se leva, marcha, rentrant dans le temple, sautant, louant Dieu. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Je pose la question. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui encore Dieu a le pouvoir de dire à quelqu'un, lève-toi et marche? Moi, je le crois. Moi, je crois que si quelqu'un ici est en conflit avec elle-même, conflit avec la société, conflit avec oui, tout son environnement, mais si aujourd'hui elle dit « Je me lève et je veux que le Seigneur me pardonne mes péchés », ben il le fait. Alors je pose la question. Oh, tant pis, hein. Je ne risque rien, c'est le Seigneur qui fait. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever et dire « Moi j'ai envie que ma vie change, j'ai envie que le Seigneur prenne en charge ma vie. Je veux marcher selon sa parole ». Je veux obéir à sa parole. Y a-t-il quelqu'un? Oh, Ah oui, mais toi, je sais que tu marches déjà avec lui. Hein. Lui, je sais. Non, non, j'invite quelqu'un qui est dans sa relation avec lui-même, est en conflit, ne sachant pas qui il est, où il va, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est quelqu'un qui veut que Jésus fasse quelque chose de particulier à lui. Et moi, je sais une chose, c'est que je peux vous garantir qu'il le fait. Si vous voulez vraiment, aujourd'hui, dire au Seigneur Jésus, j'en peux plus. Ma vie, elle est... j'ai toujours une vie bizarre qui m'a entraîné à toutes sortes d'addictions, toutes sortes de problèmes que je me suis provoqué moi-même. Aujourd'hui, le Seigneur peut. Tu es peut-être quelqu'un qui a quitté l'Église depuis un certain temps. Tu es peut-être quelqu'un qui a besoin de revenir à la source. Vous savez que la rivière de Dieu est toujours pleine d'eau. Il suffit de venir boire à cette source. Alors je vais revenir quand même à Philadelphie. L'essentiel pour cette église, c'est d'être sauvé par ce nom. Et c'est Pierre qui illustre cela dans le livre des Actes. Pourtant, après avoir été arrêté, il va dire une parole. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et malgré cette parole que Pierre vient de donner aux religieux qui étaient là autour de lui, il est dit que, on leur dit à Pierre et à Jean, vous ne parlez plus en ce nom-là. On vous interdit de parler au nom de Jésus et d'enseigner au nom de Jésus. Quelle folie! Quelle folie! Et Pierre, d'ailleurs, va réagir. Il va dire, mais est-ce qu'il vaut mieux refuser de parler au nom de Dieu ou de refuser de parler à votre nom? Nous allons passer au troisième secret. Le troisième secret n'est pas anodin, parce que je crois que nous en avons besoin en tant que croyants, c'est l'expérience de la puissance de Christ. Je précise bien, l'expérience de la puissance de Christ. Seigneur Jésus, avant de partir dans le ciel, il a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Et pourtant, quand vous lisez les évangiles, vous apercevez que un mort qui ressuscite au bout de 4 jours, des aveugles qui voient, et j'en passe, toutes sortes de maladies guéries, faire plus que ce qu'a fait Jésus. Et pourtant, c'est ce qu'il dit aux croyants. C'est ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous ne sommes pas pires. La question, c'est la foi. Est-ce que j'ai la foi? Et on peut dire que cette église de Philadelphie, elle réunissait toutes les conditions préalables pour vivre de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La révélation qu'elle reçoit est très particulière. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Cela nous renvoie un peu à l'Ancien Testament, Ésaïe, qui dira de la part d'Éternel cette parole, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il l'ouvrira, nul ne fermera, mais quand il fermera, nul n'ouvrira. » C'est Ésaïe 22:22, pour ceux qui relèvent. La clé est toujours un symbole d'autorité et aussi de salut. C'est le reproche que fait Jésus aux pharisiens. Écoutons-le, ce que Jésus va dire aux pharisiens. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Luc 11, verset 52. Allez, on va terminer par le quatrième secret, parce qu'après vous allez commencer à dire « Je suis fatigué de l'entendre. » Non, c'est pour moi que vous entendez. Enfin, ma voix, oui, mais c'est la parole de Dieu. C'est la conviction quant à la position en Christ. Être convaincu de ma position, qu'elle soit en Christ. Ça, c'est important. Parce que si le Seigneur a ouvert une porte, cela implique que d'autres portes doivent être fermées. Et c'est souvent le malheur des croyants. C'est souvent le malheur des croyants. Et moi, je m'exclus pas là-dedans. On oublie de fermer certaines portes. Les portes qui sont dans le monde. Les portes qui s'ouvrent là comme ça. Sur le moment, il y a une grande joie. Ah ! Et des fois, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il faut que les chrétiens qui veulent vivre une vie de communion avec le Seigneur doivent se séparer des anciennes habitudes qu'il nous dit au monde. On peut dire que les chrétiens de Philadelphie vivaient pleinement dans l'unité spirituelle. Ils étaient un en Christ. Moi, j'aime bien ce terme, un en Christ. Être un en Christ, ce qui veut dire qu'il y a... c'est la perfection. Un en Christ. Ce qui veut dire que l'esprit qui vous dirige est le même esprit qui me dirige. Ça, c'est merveilleux. De savoir que c'est l'esprit de Dieu qui peut me diriger et savoir que cet esprit de Dieu qui me dirige, dirige mon frère, dirige ma sœur. Et c'est ce qui fait que, je dis bien, c'est ce qui fait que l'amour peut se manifester. Comment, si l'esprit se manifeste entre nous, comment l'amour ne pourrait pas circuler pareil? C'est impossible. C'est un ensemble. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est ça. Et l'Église de Philadelphie a compris ça. Elle l'a non seulement compris, mais elle l'a mis en application. Alors là, je vais peut-être dire quelque chose que peut-être certains ne seront pas d'accord, mais tant pis. Moi, écoutez, vous prenez ce que vous voulez, vous laissez ce qui ne vous intéresse pas, hein, on est d'accord. Bon. Aujourd'hui, on cherche le dialogue intercommunautaire en disant qu'il faut s'ouvrir vers les autres chrétiens. La question, sommes-nous sûrs que c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est une question que je pose. Hein. Avons-nous la conviction de vivre tous dans un même langage et ressemblons-nous à cette église de Philadelphie? Réfléchissez bien à ça avant de répondre. Moi, je crois qu'il faut, dans un sens, l'église universelle, c'est toutes les églises. Je suis d'accord. Mais est-ce que vraiment c'est une nécessité? Est-ce que c'est quelque chose qui va être vital pour nous? Est-ce que déjà l'Église ne doit pas être on pourrait dire, allez, un bâtiment en mouvement ou un navire en mouvement ayant un même but, un même tracé, un même langage, un même esprit? Si ce n'est pas ça, si vous faites trop d'escales, vous n'êtes pas sur la bonne route. Ferme la parenthèse. Les critiques, ce sera à l'extérieur. Hein. Bon. Pour elle, pour l'Église de Philadelphie, demeurer inébranlable et refuser tout compromis ou concession au monde sera la garantie de vivre pleinement selon la parole du Seigneur. Alors, en conclusion, cette église de Philadelphie vivait pleinement ce que le Seigneur avait donné. Ce n'était pas comme ça. Non, c'était une vie pleine, accomplie par le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur, non seulement il ne fait pas de reproches à cette église, mais au contraire, il l'encourage. Rendez compte, quand il est dit sur la synagogue de Satan, j'essaie de retrouver... Voilà. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement ça. Hein. La synagogue de Satan, il va les faire venir et se prosterner aux pieds de ses croyants. On peut imaginer beaucoup de choses. Soit qu'ils auront étaient saisis par l'amour de Dieu, ça serait la meilleure des choses qui puissent leur arriver. En tout cas, on sent qu'il y a un abaissement, il y a une soumission, il y a quelque chose de particulier. Alors, ne rentrons pas dans ce truc-là parce que bon, on ne sait pas trop, la parole ne le dit pas, mais ce qui montre que cette Église était dans le droit chemin que Dieu avait tracé pour elle. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'Église de Prévesin, dont nous faisons partie, puisse avoir comme repère un peu ce que nous venons de voir à travers cette Église de Philadelphie, afin que notre marche soit toujours dans le sens que le Seigneur désire pour chacune de nos vies. Et je dirais que pour ceux qui ne sont pas encore sûrs de cette œuvre accomplie dans leur cœur, ne tardez pas. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que vous doutez de ça? Alors si vous ne doutez pas de ça, sachez qu'il faut écouter et regarder ce qui se passe dans le monde. Et quand on entend et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que je suis et où je vais? Le Seigneur veut le meilleur pour vous. Mais est-ce que vous le voulez? La question, elle est là. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se révèle à vos cœurs, et que ensemble nous puissions parcourir ce chemin qu'il nous a tracé une fois pour toutes, pour qu'un jour nous nous retrouvions dans sa présence et que nous puissions l'adorer pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que ta parole, elle est là, et elle nous révèle, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est patient, ce Dieu qui veut que nous marchions en nouveauté de vie, qui veut que nous laissions aussi toute la place dans nos cœurs, afin que ta volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies, Seigneur. Alors bénis toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Révèle-toi en particulier ceux qui encore n'ont pas saisi ta main, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir peut-être de les voir confesser ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui fait grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.
Merci, Georges. Et Georges, j'ai bien aimé ta fin, que ce qui est écrit là-dedans, c'est vrai. Et on a tendance à oublier, Jésus revient, c'est clair. Et si vous avez des doutes sur ces églises, moi, j'aime pas trop l'histoire, mais des fois, il y a des trucs qui m'intéressent dans l'histoire, et c'est intéressant de voir déjà dans l'histoire ce qui s'est passé avec ces églises. L'église de Philadelphie, dont la parole qui vient de dire, Dieu a dit qu'il allait la préserver. Celle d'après, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Philadelphie est devenue une grosse ville en Asie mineure dans le temps, depuis l'époque de Jésus jusqu'à maintenant. Elle a été détruite par plein de tremblements de terre, à chaque fois reconstruite. Elle a été attaquée à une époque, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia, parce que j'avais lu ça, elle a été attaquée au XIIe siècle, toute l'Asie mineure a été attaquée par les Ottomans. La seule cité qui a tenu, c'était Philadelphie. Je trouve ça assez incroyable. Et puis à côté, l'église de Laodicée. Vous savez ce qu'il a été dit de l'église de Laodicée, qui vomira de sa bouche. Le temps est en marche. Laodicée, vous ne pouvez pas le visiter aujourd'hui, c'est un tas de ruines, c'est tout pété. La parole existe, est vraie, et on peut l'éprouver chaque jour. On va partager les annonces pour cette semaine. Eric, merci. Mardi, la parole, on veut l'éprouver, mardi avec l'étude biblique. On va faire l'étude biblique sur le dernier thème qu'on aurait dû faire à la fin de l'année, qu'on n'a pas fait. Donc on commence l'année avec le dernier thème de l'année précédente, comme ça sera fait et on pourra repartir avec une super année. Quel thème? Ce sera Pierre qui s'en occupera. Le thème, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le passage de référence, c'est Luc 10, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Venez, ça va être un bon moment. On dit étude biblique, mais c'est un partage. On veut écouter un peu comment chacun perçoit la parole dans son cœur. Jeudi, il y a la reprise de la chorale pour tous ceux qui veulent, à 20h. Venez, c'est chouette, il y aura plein de projets. Marie-Lou, elle est au taquet, je la vois là, elle a déjà envie d'être jeudi. Donc venez jeudi à la chorale, et il n'y a pas besoin de savoir chanter. Hein. Ceux qui ne savent pas chanter, vous venez avec les basses, on se débrouillera. Elle me dit non. Il faut savoir chanter, mais il n'y a pas besoin d'être un expert. Il faut surtout avoir à cœur de chanter, et là est toute la différence. Donc venez à la chorale jeudi. Le week-end prochain, on a ce week-end d'église qu'on attend et dont on se réjouit. On est quasiment 100 personnes à ce week-end d'église. C'est un truc de fou. Donc il y a une mauvaise nouvelle, c'est que là, il n'y a vraiment plus de place. On a essayé cette semaine de graquer des places à gauche, à droite, on n'a plus la capacité de faire plus. Donc si vous êtes inscrit, c'est cool. Sinon, il faut déjà vous inscrire pour l'année prochaine, reprenez une place, venez me voir, on mettra ça sur un bout de papier. Les jeunes, groupe de jeunes, tout le rang qui est là, il faut que vous preniez des sacs de couchage, c'est important. Ça veut dire que vous allez dormir dehors, vu qu'il n'y a plus de place. Cool. Les jeunes garçons, je précise. Les jeunes filles, c'est bon, vous êtes sauvés. Vite fait, encore en détail, pour le matin, ceux qui veulent, vous pouvez faire une balade avec Rémi. Enfin, il faut partir le matin à 8h. Rémi, qui est là, qui lève la main. Vous irez faire une balade à 2h d'ici, pas très loin de Champfleury, on va, et puis retour dans l'après-midi. Donc vous allez voir Rémi, parce qu'il faut que vous partiez à 8h le matin. Quoi dire encore? On a mis des petits papiers à la sortie pour l'itinéraire, pour ceux qui ne sauraient pas comment y aller, avec 2-3 instructions, vous le prenez, c'est mieux que le GPS, ça ira tout droit au bon endroit. Donc pas de culte dimanche prochain ici, pour ceux qui voudraient venir, c'est une des rares fois où on n'a pas de culte. Quelques dates encore, qu'on n'a pas écrit ici, mais qui sont importantes. Le 30 septembre, c'est la rentrée des écoles du dimanche, ils sont rentrés officiellement aujourd'hui avec leur moniteur, on fera un culte de rentrée le 30 septembre, qui sera animé par les écoles du dimanche. Autre date importante, le 16 septembre. Donc pas ce dimanche d'après, pas ce dimanche, celui d'après. Le 16 septembre, on va avoir un moment pendant le culte de reconnaissance pour l'arrivée de Philippe de la Fuente en tant que pasteur dans l'église. Donc un moment de prière. C'est pas un culte où on invite tout le monde de l'extérieur pour reconnaître au ministère. Non, c'est un moment pour nous, là. Ça ne veut pas dire que c'est interdit d'inviter du monde, mais où on veut vraiment lever les mains au ciel et rendre gloire à Dieu pour cette arrivée. Donc on fera ça le 16 septembre. Ouais, vas-y.
Ça, je dirais, au début, tout à l'heure, Georges a dit que notre pasteur était aujourd'hui dans une autre église. Et j'ai réfléchi. Moi, je suis dans cette église depuis qu'elle existe. Il y en a quelques-uns ici encore. Non plus aînés. Et c'est aujourd'hui, ce matin, le premier dimanche où cette église s'est dotée d'un pasteur, d'un berger, un homme qui va marcher avec devant Dieu pour continuer d'avancer avec cette église. Un berger, on en a toujours eu un depuis le début, un grand berger, c'est ce matin, officiellement. Et puis le petit clin d'œil, c'est que notre église est une église tournée vers l'extérieur. Une église qui veut rayonner, qui veut aussi toucher les gens autour, dans le village et partout. Et mon clin d'œil ce matin, c'est que ce matin, c'est le premier jour où officiellement, le premier dimanche, on a un pasteur et il est en train de prêcher dans une autre église. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire comme petit clin d'œil de Dieu. Merci.
Merci Raymond. Encore pour le week-end d'église, on cherche une place dans une voiture pour y aller pour Jean-Mi. Donc si vous avez cette place, vous venez le dire à moi ou à Philippe ou bien à Nancy. Donc une place pour y aller. Fin de la parenthèse week-end d'église. Vu qu'on a parlé du...
Ouais. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin, elles ne comprennent pas, ni de place.
Oui, oui,
mais
oui.
Aussi dire, si vous avez de la place, ouvrez vos voitures.
Voilà, exactement. Covoiturage à fond. Merci Philippe. Juste pour rappeler encore que Franck continue sa vente de miel à la sortie qu'on a commencé la semaine dernière, dont le montant de la vente sera remis dans la collecte. Il y a eu 60 pots de vendus la semaine dernière, super cool. Donc si vous l'avez bien aimé et que vous n'avez pas eu le temps, allez-y vite fait encore à la sortie. Merci Franck. Concernant le pasteur, ah ouais, ça c'est cool, ça tu peux mettre le slide là. On a créé une adresse mail pour le pasteur. Ouais. Regardez ça, Pasteur Phil. C'est pas bien ça, Pasteur Phil at lecep.info. Char. Moi j'étais content de créer ça cette semaine, ça m'a fait plaisir. Donc c'est pas une blague, il y a une vraie adresse email. Cette adresse fonctionne, il répond déjà, on a testé. On a mis son numéro aussi avec son accord. C'est en train de se mettre en place, c'est concret. Mais comme l'a dit Raymond, le pasteur est là. Demain il sera là, il y a une clé de l'église. Donc il y a un bureau qui est encore un peu, pas vraiment un bureau, ça va venir avec le temps, c'est le moment des travaux, mais il est disponible, on ne peut pas encore vous dire exactement quand il est disponible, on mettra plus tard quelque chose de régulier pour dire tout le temps, il est là à tel horaire, ce genre de choses, mais si vous avez besoin de lui, il est là cette semaine, ok? Pasteur Phil, atlecep.info, on l'a mis sur le site, elle est belle cette adresse, hein, moi je l'aime bien. Et j'étais pas là au début du culte, ils t'ont accueilli, Philippe, là, Christiane, là, ou quoi? Ouais. Je me suis demandé. Tu veux juste, on a deux minutes, tu veux juste dire deux mots sur Bellegarde, comment ça se passe? Je te prends sans t'avoir prévenu, mais c'est avec plaisir que j'entendrai un peu. Ouais, viens là, parce que comme ça, tout le monde entendra. Puis on aime bien te voir.
Moi, je suis reconnaissant au Seigneur et Christiane, Méline, d'être auprès de vous. Et puis, en plus, l'arrivée des nouveaux pasteurs. Merci, Seigneur, pour ces bonnes nouvelles. Alors, sur Bellegarde, ça se passe bien. On a bientôt la reprise du club d'enfants. Alors, le club d'enfants, c'est un peu original. Si vous voulez un jour nous rendre visite près du Rhône, sur Bellegarde, il y a des gens avec nous qui sont voilés. On fait jouer des personnes, des dames qui jouent avec nous. Leurs enfants, il y a peut-être... Christiane, la dernière fois, elle a rigolé parce que j'étais assis à une table à faire des jeux. Et il devait y avoir quatre femmes à côté de moi avec leurs enfants voilés. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on agit un peu sur Bellegarde, où on a envie d'agir en tout cas. À côté de ça, on a quand même pas mal de gens qui viennent nous aider. On arrive, Nourtine, des gens du sud aussi, qui habitent Échalon derrière. On a des gens aussi, des personnes de Martine, une Martine en tout cas, qui est du côté de Génicia. Voilà, actuellement on a un culte par mois à 10h et 10h30, et un autre culte à 17h. On a voulu faire un peu comme dans les grandes villes, voir la disponibilité des gens et essayer un culte à 17h. Donc voilà, tout ça, on est en réflexion, on est toujours en train de rectifier par rapport à ça. On est reconnaissant au Seigneur pour ce qui se passe là-bas. Quoi dire de plus, Christiane ? Alors donc on a un coin thé au café, donc le jeudi matin, avec des invitations. Alors c'est ouvert aux personnes extérieures, les gens viennent, on discute autour d'un sujet. En ce moment, l'an dernier, ils ont lancé le repas, alors évidemment le repas attire beaucoup de gens. Et donc ça fait déjà 3 ans, 4 ans que thé au café est en place. Voilà. Donc nous actuellement on a une réunion de bilan là, le 22 septembre pour voir un peu, pour faire le bilan de ces 5 ans déjà, 5 dernières années. Et bon, c'est vrai qu'on a eu aussi des difficultés. On a eu des difficultés dans le groupe, dans l'équipe, où la vision n'était peut-être pas la même pour chacun d'entre nous. Mais en tout cas on est reconnaissant parce qu'aujourd'hui, eh bien, malgré ces difficultés, on peut témoigner comme vous que Dieu est là. Hein, comme l'église de Philadelphie, ça ne marche pas comme sur des roulettes. Non, ça nous fait grandir aussi chacun, ces difficultés. Voilà, merci à chacun et on est content de vous voir. Merci Pierrot, Madeleine, les anciens là-bas, les plus vieux. Merci.
Merci. On vous souhaite de continuer à briller à Bellegarde. N'oublions pas les personnes parmi nous qui la santé ne va pas bien, le moral ou autre. Je vous cite juste deux personnes. Il y a Mike qui est encore en cure. Il revient jeudi, Mike. Donc c'est une super nouvelle. Si vous voulez lui écrire, écrivez-lui maintenant pour qu'il y ait avant qu'il parte. Mais continuons de prier et de prier pour son retour. La cure était une étape, mais son retour en est, je crois, encore une beaucoup plus, un challenge beaucoup plus haut. Et aussi, vous donner des nouvelles de mon papa qui s'est fait opérer. Ça va bien, il faut qu'il ait un peu de temps de repos, mais l'opération s'est bien passée. Vous voulez être béni pour cette semaine? J'en ai une pas mal. Hein. Bon, qui veut être béni? J'arrose. Ok. Je vous lis dans Jacques. Alors, la bénédiction, elle est dans la parole, mais elle nous engage. Hein. J'ai hésité à couper le premier verset, mais je ne vous le coupe pas. Rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Je m'arrête volontairement là, avant de lire les deux derniers versets. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais faire court. Il y a une chanson de Michael Jackson qui s'appelle « Man in the Mirror ». Je le dis avec mon accent français, désolé pour les profs d'anglais. « Man in the Mirror ». Peut-être vous êtes un peu allergique à la Bible et je vous souhaite que vous ne le soyez plus dans un moment. Si vous êtes trop allergique, allez voir cette chanson, les paroles de cette chanson, et après revenez lire ça dans Jacques. « Man in the Mirror » qui parle de ce passage, c'est incroyable. Ne vous faites pas des... Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, c'est un homme, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et qui écrit là-dedans, et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Bonne semaine.